mise en onde de Michel Joseph à la console Kelvin Fowler.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 25 mai 2023. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Seloulia. Tout d'abord les titres. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko, menacé d'inéligibilité, lance un nouveau défi au pouvoir. Nouvelle grâce présidentielle au Tchad, en rapport avec des manifestants et un coup d'État manqué. Addis Abeba, le chef de la diplomatie ukrainienne, appelle l'Afrique à soutenir Kiev face à Moscou. Ici aux États-Unis, le gouverneur républicain de la Floride, Ron DeSantis, principal rival de l'ex-président Trump, entame sa campagne pour la Maison-Blanche. Tina Turner, la reine du rock'n'roll, est morte paisiblement mercredi à 83 ans, des suites d'une longue maladie. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko, candidat déclaré à la présidence de 2024 et menacé d'inéligibilité, a lancé mercredi un nouveau défi à risque au pouvoir en annonçant son prochain retour à Dakar à la tête d'un convoi populaire à travers le pays. Des détails avec Michel Joseph.
Je vous donne rendez-vous à Dakar. Soit le président Macky Sall recule, soit on lui fera face pour en finir, a lancé M. Sonko à des centaines de partisans accourus devant sa maison de Ziguinchor à l'annonce d'une prise de parole de sa part le lendemain de son procès pour viol. À ce procès, tenu en l'absence de M. Sonko, le procureur a requis sa condamnation à 10 ans de réclusion pour viol, ou au minimum à 5 ans de prison pour corruption de la jeunesse, ainsi qu'un an de prison pour les menaces de mort qu'il aurait proférées contre la plaignante Hadji Sarr. Le combat final, ça se passera où ? Ça se passera à Dakar, a-t-il proclamé, affirmant son intention de rentrer par la route et de transformer ses quelques 500 kilomètres de trajet en caravane de la liberté. M. Sonko a précisé plus tard sur les réseaux sociaux qu'il comptait se mettre en branle jeudi et a appelé les Sénégalais à converger vers Dakar. Il a toujours refuté les accusations contre lui et crié au complot du pouvoir pour l'écarter de la présidentielle de 2024. Le gouvernement dément toute instrumentalisation de la justice et allègue une affaire privée.
Arrestation en Mauritanie d'un leader de l'opposition, Biram Da Abed, et d'une dizaine de ses militants sur fond de contestation électorale. L'opposition exige la réorganisation des élections législatives, régionales et municipales du 13 mai, qu'elle qualifie de frauduleuse. De Nouakchott, notre correspondant Mohamed Diop.
Ces propos, l'opposant Biram Da Abed, militant des droits de l'homme et député réélu au Parlement, les a tenus lors d'une conférence de presse de la plateforme de l'opposition, dénonçant, je cite, la manipulation du processus électoral. C'est au lendemain des mêmes propos que la police l'a interpellé, ainsi que 13 de ses militants qui manifestaient pour sa libération. Pour Biram, les dernières élections législatives, régionales et municipales constituent un recul de la démocratie en Mauritanie.
Raddit Mauritanie.
La commission électorale a déjà publié les résultats provisoires donnant une large victoire à la majorité présidentielle. À l'Assemblée nationale, par exemple, le parti au pouvoir, Al-Insaf et les autres formations de la majorité présidentielle obtiennent 116 sièges au premier tour. Toute l'opposition réunie se partage 24 sièges et exige la réorganisation des élections. Mohamed Diop pour VO Afrique, Nouakchott.
Pour expliquer, M. Biram Da Abed a dit « Si le résultat des élections est ainsi maintenu, les hommes libres devront alors prendre les armes. » Et plus tard, il a dit « Lentement, mais sûrement, on était sur la voie de l'alternance démocratique. Il y avait de l'espoir. Aujourd'hui, la Mauritanie mène plutôt vers la discorde et la guerre civile. » Au Tchad, le président de la transition a gracié mercredi, comme il l'avait promis, une nouvelle vague de 67 personnes condamné pour avoir participé à une manifestation réprimée dans le sang le 20 octobre 2022 et 11 autres pour un coup d'État déjoué en décembre, selon N'Djamena. Le général Mahamat Idriss Déby Itno avait déjà gracié et fait libérer début avril 380 rebelles, puis mi-mai 259 jeunes condamnés dans le cadre de la manifestation d'octobre 2022, assurant vouloir privilégier l'apaisement et la réconciliation nationale. L'acheminement de l'aide humanitaire est resté impossible mercredi au Soudan, où les civils attendent toujours l'ouverture de couloirs sécurisés au deuxième jour de la trêve entre l'armée et les paramilitaires, marquée par de nouveaux combats. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, en visite en Éthiopie, siège de l'Union africaine, a appelé hier certains pays d'Afrique à renoncer à la neutralité qu'ils affichent dans le conflit entre son pays et la Russie et à soutenir Kiev. Le point avec Rosine Mounezero.
Nous essayons d'expliquer à nos amis africains que la neutralité n'est pas la réponse, car en étant neutre vis-à-vis de l'agression russe envers l'Ukraine, vous étendez cette neutralité à la violation des frontières et aux crimes de masse qui peuvent se produire près de chez vous, si ce n'est vous arriver à déclarer Dimitro Kouleba à la presse à Addis Abeba, où il a poursuivi, après le Maroc, sa deuxième tournée en Afrique. En février, 22 des 54 États de l'Union africaine se sont abstenus ou n'ont pas pris part au vote de la dernière résolution de l'Assemblée générale de l'ONU appelant la Russie à retirer ses forces d'Ukraine. Deux pays, Érythrée et Mali, ont voté contre. Monsieur Kouleba a rencontré hier le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat et le président en exercice de l'Organisation panafricaine, le Comorien Azali Assoumani. La Russie a déjà multiplié ces dernières années les initiatives sur le continent africain visant à s'opposer comme alternative aux anciennes puissances coloniales.
Concernant justement la Russie et l'Ukraine, le FSB, selon le service russe de sécurité, a annoncé ce jeudi ce qu'il a appelé les saboteurs ukrainiens qui planifiaient des attentats visant à perturber début mai le fonctionnement des centrales nucléaires russes. Il a dit que ces saboteurs ont été arrêtés en Russie. Pour sa part, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de continuer de terroriser l'Ukraine avec ses attaques nocturnes en annonçant la destruction de 36 drones russes pendant la nuit.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le républicain Ron DeSantis a annoncé hier soir sa candidature à la Maison-Blanche, mais le lancement de la campagne du rival de Donald Trump a pratiquement tourné au fiasco, parasité par de gros problèmes techniques. Claire Morin-Gibourg.
La candidature du gouverneur de Floride était extrêmement attendue auprès des républicains, cherchant une alternative à l'ancien président américain Donald Trump, dont il partage les idées, mais pas les outrances. Elle a été officialisée mercredi dans l'après-midi. Dans une vidéo publiée sur Twitter, le quadragénaire a promis de mener le grand retour de l'Amérique. Mais alors que le gouverneur devait détailler son programme lors d'un échange avec Elon Musk sur Twitter, de sérieux problèmes techniques ont perturbé le déroulé de l'émission, écoutée par des centaines de milliers d'utilisateurs. Ron DeSantis s'est engagé à être un dirigeant énergique qui s'attaquera aux questions importantes, insistant notamment sur les questions migratoires. Le vainqueur des primaires républicaines affrontera en novembre 2024 le candidat choisi par le Parti démocrate, très probablement Joe Biden.
La chanteuse Tina Turner est morte à 83 ans selon un communiqué publié hier sur le compte Instagram officiel de la légende du rock. La grande vedette qui a fait danser la jeunesse mondiale s'est éteinte, Michel Joseph.
C'est avec une grande tristesse que nous annonçons la mort de Tina Turner, indique le communiqué, ajoutant que la chanteuse américaine, naturalisée suisse, laissait derrière elle sa plus grande œuvre, c'est-à-dire sa musique. Elle avait entamé dans les années 1950 aux États-Unis. Elle aura remporté 8 Grammys, les récompenses de la musique américaine. Avec des tubes comme Proud Mary ou The Best, l'artiste à la crinière blonde et au sourire ravageur a su enflammer les foules grâce à son jeu de scène irrésistible. Avec sa musique et sa passion infinie pour la vie, elle a enchanté des millions de fans à travers le monde et inspiré les stars de demain, ajoute le communiqué sur son compte officiel. La Maison-Blanche a déploré une perte immense. C'est une nouvelle incroyablement triste. Elle était une icône de la musique, a déclaré l'attachée de presse Karine Jean-Pierre, ajoutant qu'elle était personnellement une grande fan de Tina Turner.
La Minute Éco, Nani Talani.
Le FMI déclare avoir achevé les premiers examens du programme de prêt du Rwanda dans le cadre de la facilité de résilience et de durabilité, permettant un décaissement immédiat de 98,6 millions de dollars. Selon le fonds, l'économie rwandaise a connu une croissance robuste en 2022, mais elle est confrontée au défi des récentes inondations désastreuses qui s'ajoutent aux pressions sur les dépenses antérieures. Le FMI annonce avoir trouvé un accord pour un prêt d'un milliard de dollars pour le Kenya, confronté à des problèmes de liquidité et à des difficultés économiques, avec une dette qui culmine à 70 milliards de dollars et une forte dévaluation aussi de sa monnaie, le shilling, face au dollar. Cet accord doit encore être validé par le conseil d'administration du FMI qui se réunit en juillet. Terminons par Lifezon Metals, qui développe une mine de nickel en Tanzanie et négocie des accords d'approvisionnement avec plusieurs fabricants de véhicules électriques et de batteries, alors que la course aux métaux de transition énergétique s'intensifie. Le processus mené par RBC Capital Market pour vendre le métal non encore produit du projet Kabanga Nickel de Lifezon a suscité un vif intérêt de la part des sociétés de véhicules électriques et de batteries, dont certaines se sont rendues sur le site minier, a déclaré le PDG Chris Showalter.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Eric Manirakiza. Eric, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Real Madrid, les joueurs et le Bernabéu affichent leur soutien à Vinicius.
Avant leur match contre le Rayo Vallecano, hier mercredi, les joueurs du Real Madrid sont entrés sur la pelouse avec un maillot affichant le nom et le numéro 20 de leur coéquipier Vinicius, victime d'insultes racistes dimanche à Valence et absent en raison d'un coup sur un genou. Une banderole a été déployée avant le coup d'envoi dans le virage sud du Santiago Bernabéu affichant « Nous sommes tous Vinicius, ça suffit » avec un maillot à l'effigie du Brésilien sur le côté. Puis les joueurs du Real ont posé dos aux photographes en ligne, affichant tous le nom et le numéro du maillot de Vinicius sous les applaudissements du public. Vinicius, présent en tenue civile derrière eux, a également applaudi, visiblement touché par le geste. À la 20e minute de jeu, en référence au numéro du joueur, le stade a chanté Vinicius, Vinicius.
Avant de devenir une figure de la lutte antiraciste, Vinicius a fait parler de lui par son talent.
En l'espace de deux saisons, l'ailier brésilien du Real Madrid, Vinicius, s'est hissé parmi les meilleurs joueurs de Liga et du monde. Par ses dribbles chaloupés et sa vitesse insolente, Vinicius Junior a réussi à devenir le joueur le plus décisif du monde, selon son entraîneur, et a gagné le cœur des supporters du Real. Mais ses facilités balle au pied ne sont pas du goût de tout le monde. À chaque match, les supporters de l'équipe adverse tentent de le déstabiliser comme ils peuvent, osant parfois le pire, l'injure raciste. À maintes reprises, Vinicius a haussé le ton, dénonçant l'inaction des organes compétents, ce qui lui a valu quelques prises de bec avec les plus hauts dirigeants du football espagnol. Mais aujourd'hui, la réaction de Vinicius, au-delà de rajouter une ligne à ce sinistre historique, pourrait bien servir de détonateur.
JO 2024, 6,8 millions de billets déjà écoulés, un succès pour le comité d'organisation.
À 14 mois des Jeux, le patron du comité d'organisation des JO de Paris, Tony Estanguet, a de nouveau défendu son modèle de billetterie, évoquant un succès avec déjà 6,8 millions de billets vendus sur les 10 millions disponibles. Confronté à une vague de critiques sur les prix jugés trop élevés et sur la remise en cause de l'idée de jeu populaire.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Un budget global de 4.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Organisation.
Merci Eric.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La région du Sahel compte plus de 3 millions de déplacés internes selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, un nombre qui est appelé à augmenter, avertit la HCR, en raison de la récurrence des attaques terroristes. Ces déplacements pourraient faire basculer le Sahel dans de nouveaux conflits. Mohamed Oumfa a joint le docteur Ali Tunkara, directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel.
C'est vrai que quand on regarde un peu les causes structurelles de ces différents conflits, qu'ils soient liés au terrorisme ou aux conflits locaux, on se rend compte que très souvent, les impacts négatifs des changements climatiques ont considérablement déstructuré le corps social. C'est de cette déstructuration que des groupes radicaux violents se sont investis ou se sont invités dans des endroits dans le Sahel. Donc, ensemble, ce sont des populations déjà fragiles par les impacts négatifs des changements climatiques qui se sont vus face à des conflits violents qui sont le terrorisme, les conflits locaux et même des conflits liés parfois aux groupes d'autodéfense.
Oui, il y a donc des déplacements des populations qui partent de leur localité vers d'autres et parfois même de certains pays vers d'autres. On parle de conflits fonciers, de tensions entre éleveurs et agriculteurs, de l'aggravation de la pauvreté qu'entraînent tous ces déplacements. Qu'en pensez-vous?
Clairement, ce sont des facteurs. C'est vrai qu'il n'y a pas qu'un seul facteur qui pourrait expliquer la situation délétère dans laquelle se trouvent les populations déplacées ou les réfugiés, mais la connexion entre les facteurs, les impacts négatifs du changement climatique, la criminalité transfrontalière, l'immigration de certaines localités par les groupes radicaux violents, l'insuffisance en termes de délivrance des services sociaux de base sont entre autres des facteurs mis en connexion pourrait expliquer ces déplacements massifs des populations des campagnes vers les centres urbains ou parfois c'est des déplacements qui vont même au-delà des frontières. Donc pour dire qu'attention, vouloir à tout bout de champ s'accrocher sur un seul facteur, on risque de s'inscrire dans une analyse biaisée, voire très raccourcie.
Notre correspondant au Burkina Faso a réalisé un reportage qui montre que de nombreux déplacés trouvent refuge dans les familles, ce qui accentue les problèmes financiers et de survie des dites familles. Faut-il s'en inquiéter?
Clairement, parce que une fois que les populations déplacées, si elles sont à l'intérieur de leur propre pays, ou les réfugiés, si ces populations sont au-delà des frontières, naturellement, ça provoque une concentration autour des ressources rares, que ce soit l'accès à l'alimentation, que ce soit l'accès à l'eau, même l'accès au logement. Très souvent, les populations hautes ont la ferme conviction qu'avec les réfugiés, avec les personnes déplacées, que la criminalité augmente. Donc pour dire que lorsque ces déplacements venaient à se prolonger dans la durée, naturellement, il n'y a rien d'étonnant de s'attendre à de nouvelles conflictualités dont le Sahel pourrait connaître dans les années à venir.
C'était le docteur Ali Tunkara, directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Au Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, plusieurs jeunes artistes de Goma se sont engagés dans l'art thérapeutique en faveur des déplacés de guerre vivant dans les différents camps. L'objectif, redonner le sourire à ces personnes dont la vie a été rendue difficile par la guerre. De Goma, un reportage de notre correspondant Zanem Neti Zaidi.
Les chansons interprétées par les artistes et accompagnées par les déplacés du camp Don Bosco d'Engangui ont permis à Madame Léontine Daguigé, une vieille dame vivant avec ses 8 enfants dans une seule case, d'oublier un peu sa vie des misères.
En tout cas, nous sommes très heureux d'accueillir ces jeunes dans notre camp. Avant leur arrivée, nous passions des journées entières à nous replier sur nous-mêmes et à penser à notre misère. Mais depuis qu'ils sont réguliers, nous nous sentons soulagés. Nous faisons avec eux de petits exercices de relaxation musculaire qui font circuler les sangs dans nos veines et améliorent notre respiration. Et quand ils nous font rire, nous oublions toutes les souffrances que nous endurons.
Il a fallu beaucoup de temps à ces artistes pour pouvoir jouer avec les personnes âgées, surtout les femmes, explique Boniface Nzanzu, un comédien qui se réjouit de leur rapport à la vie des personnes déplacées du camp de Don Bosco.
On n'arrivait pas à travailler avec les femmes plus âgées parce qu'elles avaient trop de réserves et ne voulaient pas bouger. Mais avec un temps, quand on a commencé des exercices, on les a trouvés trop ouverts et on a compris qu'il leur manquait quelque chose pour leur divertir, pour leur permettre d'exprimer leurs sensations, et c'était l'art. On a trouvé que c'était trop bénéfique et aujourd'hui, on est sûr qu'on a créé beaucoup d'hommes et de femmes qui vont réparer les âmes de leurs proches dans ces camps des déplacés.
Réparer les âmes meurtries et traumatisées, c'est l'objectif de ces jeunes artistes qui travaillent dans un projet d'inclusion et de réinsertion sociale par les arts, dénommé les hommes qui réparent les âmes, une initiative qui doit impérativement être appuyée par le gouvernement congolais et ses partenaires des organisations humanitaires, estime Valentin Bahati, un psychologue congolais.
Souvent quand on est exposé aux violences, c'est comme si on était exposé au virus, mais seulement ici chez nous, nous ne savons pas que tout ce que nous sommes en train de vivre ici, que ce soit le volcan, que ce soit les guerres, nous affecte. Les interventions que les jeunes sont en train de mener dans le camp des déplacés, ce sont des actions que nous encourageons et nous souhaitons que toutes les organisations puissent prendre conscience de ces besoins.
Ici à Don Bosco, un groupe de déplacés vient d'être formé dans l'art thérapeutique pour apporter un sourire et la joie au milieu de la souffrance et la misère. Zanem Letizaidi, à Goma, pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
En sport, on connaît les équipes finalistes de la Basketball Africa League saison 3. Il s'agit de l'AS Douane du Sénégal et des Égyptiens d'Al Ahly qui vont s'affronter ce samedi 27 mai à Kigali, la capitale du Rwanda. En demi-finale hier mercredi, l'AS Douane s'est imposé face à la redoutable équipe de Petro de Luanda, 92 à 86, et jouera sa première finale de la Basketball Africa League. Dans la seconde demi-finale, le stade malien de Bamako s'est incliné dans les dernières secondes face à Al Ahly d'Égypte, 78 à 73. Nous retrouvons sur place à Kigali nos envoyés spéciaux Cheikh Thiérot et Yakuba Ouedraogo.
Il s'était fixé pour objectif d'atteindre les demi-finales de la balle saison 3. Et les voilà en finale. Conscients de la solidité de Petro de Luanda, les Sénégalais de l'AS Douane ont imposé un jeu physique aux Angolais pour les faire douter très tôt. L'AS Douane a remporté les trois cartons avant de faire jeu égal dans le dernier pour s'imposer au finish 92 à 86 face à Petro. Pour le coach de Gabelou, ces poulets ont joué sans complexe. Mamadou Gueye.
Aujourd'hui, je les ai dit de prendre plaisir parce que l'objectif a été déjà atteint. Depuis que j'ai commencé à coacher, c'est ma façon de faire. Il faut tout le temps en tenir la motivation des joueurs.
Les Sénégalais ont une fois de plus pu compter sur un excellent Jean-Jacques Boissy, très bon défensivement et qui a fini meilleur marqueur du match avec 28 points inscrits. Il dit avoir accompli sa mission en ayant muselé son idole et adversaire du jour, Carlos Moraes.
Je jouais déjà contre des idoles. Je jouais contre Moraes. Depuis tout petit, tout le Sénégal connaît Moraes alors que je ne joue même pas au Sénégal. Du coup, c'était mon objectif de jouer contre Moraes et de me faire plaisir, de bien défendre sur Moraes. Du coup, mon objectif c'était ça, de bien défendre sur Moraes. Et à Solo aussi, je l'apprécie beaucoup, je l'admire. Je regarde leurs vidéos pour m'améliorer. Du coup, quand je joue contre eux, je me donne à fond et j'essaie de défendre au maximum. Mon objectif en ce moment, je suis fier de moi, juste défensivement. En attaque, waouh. Mais j'étais là pour défendre et je pense que j'ai réussi à défendre.
L'AS Douane aura encore besoin d'un énorme Boissy en finale samedi face à Al Ahly du Caire. Les Égyptiens ont brisé le rêve du stade de Bamako de goûter à une finale de balle. Les Maliens ont été battus en demi-finale 78-73, mais le coach Kaba Kanté reste fier de ses joueurs qui ont manqué d'expérience dans un temps crucial de la rencontre.
Quand je perds devant cette équipe avec une prestation acceptable de mes jeunes joueurs, je ne peux pas imploder. Je peux dire que c'est l'inexpérience dans les money time. Quand Diarra prend ses fautes pour faute déplacement dans des moments très difficiles, et que Berthe choisit mal ses mouvements, et au lieu de tirer, il choisit de faire la passe et à un autre jeune joueur qui est Ruben, et qui a beaucoup apporté à cette équipe depuis la conférence du Sahara. Donc, je peux dire que c'est l'inexpérience qui a manqué à cette équipe ce soir.
Les supporters maliens présents dans les tribunes saluent la performance de leur équipe.
Franchement, c'était très très bien, c'était très serré. Avec un peu de chance seulement, on pouvait les battre, mais bon, enfin, ils ont eu de la chance, hein, mais franchement, c'était un super bon match. Très, très intéressant, on était vraiment à fleur de peau. C'était super, franchement, on n'est vraiment pas dessus, on est très fiers d'eux. Très fiers.
Mali Pistazi, Amali De Pistazi, Mali Pistazi,
tout n'est pas fini pour le stade de Bamako qui ira chercher une troisième place demain vendredi face à Petro du Luanda. Yacouba Ouidraougo, Cheikh Tiro, VOA Afrique, Kigali.
What's Love Got To Do With It? Musique du film du même nom. Tina Turner, surnommée la reine du rock'n'roll, est décédée hier à l'âge de 83 ans après une longue maladie. Connue mondialement pour ses tubes tels que What's Love Got To Do With It et Proud Mary et aussi The Best, elle a enchanté des millions de fans à travers le monde avec sa musique et sa passion pour la vie. La Maison Blanche a salué cette icône, regrettant une immense perte. L'année précédente, elle avait déjà perdu son fils Ronnie, retrouvé mort devant son domicile à l'âge de 62 ans. Dans l'émission RM Show, Roger Muntu a reçu Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias de la RDC, ainsi que la vedette franco-togolaise Elo Adassa. Tous deux se souviennent de Tina Turner, Roger.
Au cours de sa carrière entamée dans les années 1950 aux États-Unis, elle aura remporté 8 Grammy, hein, les récompenses de la musique américaine avec des tubes comme Proud Mary ou même The Best. L'artiste à la carrière blonde et au sourire ravageur a su enflammer en tout cas les foules. La grande qui vient de nous quitter, Tina Turner. Monsieur le ministre, vous avez appris avec nous sûrement, peut-être que il fait tard là-bas, je sais là où vous êtes en Chine, mais vous venez d'apprendre la mort de l'artiste Tina Turner. Et vous aimez la musique, je le sais.
Mais bien sûr que ça fait de la peine. Ça me rappelle mes années de jeunesse.
Mais
Tina Turner,
oui.
Elle nous a tellement... Et sa musique nous a tellement accompagnés que sa mort, bon, 83 ans, c'est pas peu, mais sa mort nous fait presque moins de cœur. Parce que, vous savez, cher Rose, c'est la musique qui accompagne tout le monde de la vie.
Exactement.
Et lorsque j'ai écouté la première chanson, je me suis souvenu encore de mes discussions tout petit avec mon frère aîné qui était un grand fan de Tina Turner.
Wow.
Et donc voilà.
J'aime beaucoup cette phrase, comment la musique nous accompagne, en tout cas tout le qui ramène le souvenir et dans la vie. C'était monsieur le ministre de la communication et des médias en RDC. Alain Bomba, c'est un grand plaisir en tout cas de vous avoir dans ce studio. Comment ça va?
Merci, merci Roger. Merci de m'avoir invité déjà. Pour moi, c'est un plaisir qui est encore plus immense. Et non, ça va très bien.
Ouais, super. Ouais. C'est un honneur en tout cas. Alain, tu as appris la mort de Tina Turner.
Ouais, ouais.
Et Tina Turner, c'est pas une petite dame.
C'est un mythe.
N'est-ce pas, hein.
Et ouais, c'était choquant. C'est justement en montant dans les studios.
D'accord.
J'ai vu ça sur la télé du bas.
Ouais.
Et c'est un mythe qui s'éteint. Vraiment, c'est quelqu'un qui a vraiment bercé les enfances de tout le monde.
Exactement.
Moi, j'étais très petit.
Ouais, ouais.
Mais voilà, c'est une artiste vraiment marquante.
Exactement.
Juste une petite anecdote.
Ouais.
J'ai entendu un jour, elle faisait un concert. Et puis le gars qui l'a présenté, qui dit, Tina Turner, c'est la femme que Dieu avait envoyée sur terre pour apprendre aux autres femmes comment marcher avec les hauts talons. elle avait une démarche, tu as vu comment elle marchait avec sa messe.
Joli, j'adore ça.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde, Michel Joseph, à la console, Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.